Les Gérants d'Estrade est une présentation des tables de poker Full House. Vos tournois maison passeront à un niveau supérieur avec les tables haut de gamme Full House. Visitez le www.pokerfullhouse.ca.
Analyse, opinion et entrevue. Sur rbds.ca, bienvenue à l'émission Les Gérants d'Estrade. Et maintenant, voici celui qui n'a pas peur de ses opinions, votre animateur, Simon Smerica.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission des Gérants d'Estrade. Aujourd'hui, on va vous faire écouter des entrevues avec Steve Charbonneau, Danny Machiocia. On va parler du retour de Théodore et aussi de la partie des Alouettes contre les Eskimos. On vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission des Gérants d'Estrade, votre autre Simon Smerica. Émission du 25 octobre 2006, épisode numéro 24. Cette semaine, on va parler entre autres du congédiement de Bobby Clark, des performances de Mike Ribeiro à Dallas, du retour de Théodore, des performances des Alouettes, où entre autres, on va avoir des entrevues avec Danny Machiocia et Steve Charbonneau des Eskimos d'Edmonton. Mais avant de commencer le tout, j'accueille mon collaborateur pour cette semaine.
And now, here's Maxime Chevalier.
Bonsoir Maxime.
Bonsoir Simon.
Ça va bien?
Top shape.
Hey, y en a-tu des affaires cette semaine à regarder?
Ça a brassé pas mal.
Ça a brassé pas mal, tu dis? On a juste à penser, avec le retour de Théodore de Brisebois... Pis c'était avec ça qu'on va commencer, d'ailleurs. Le
Ouh.
Retour. Ouais, on en a entendu pas mal les huées au Centre Bell. Et le retour de Théodore...
The Open Door.
Open Door. Ça a fait pas mal jaser, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et, entre autres, il a accordé 8 buts. Ça, c'est pas un secret pour personne. Mais première question que je te pose tout de suite, est-ce que Joel Quenneville s'est mis dans le trouble en le laissant là pour 8 buts? Est-ce que ça te rappelle pas, mettons, une histoire avec Patrick Roy et 9 buts?
Oui, et plus récemment, là, Robert Hesch à Philadelphie avec 9 buts. Oui, c'est sûr que, écoute, accorder 8-9 buts pour un gardien, c'est assez... En tout cas, la confiance a été branlée dans le cas de Théo.
Moi, avec les personnes avec qui j'en ai jasé, il y en a qui m'ont dit, le match était serré. Bon, ça 5 buts, moi je dis, après 5 buts, normalement tu changes ton gardien de but. Bon, mais écoute, Simon, c'était 5-4. Le match est encore à portée de la main. Avec 6-7-8 buts, tu l'aurais-tu changé?
C'est parce que ce qui arrive dans le cas de Théodore, là, il est jamais vraiment, comment je pourrais dire, à part la saison époustouflante qu'il y a eu à Montréal, on s'entend, tu t'en rappelles, Trophée Hart, Trophée Connie Smythe,
non, le Vizina.
Vizina, désolé. Écoute, à part ça, là, il n'a jamais été vraiment très, très solide. Là. Moi, je me rappelle les derniers temps que le Canadien, là, j'aimais donc pas ça le voir s'agenouiller sur la glace. Là. C'est comme, les joueurs du Canadien le connaissent, Théo, vous savez que... tirer de l'arrière par 3 buts contre l'Avalanche quand c'est Théo qui est dans les buts, c'est pas vraiment affolant. Là.
Bon, ça, les 8 buts, ça fait passer sa moyenne de 2.72 à 3.68 en le temps de le dire.
Ben, c'est clair, là, 8 buts en une partie.
Bon, est-ce que ça a été plus gênant de laisser sa patinoire pour les 8 buts que de le retirer devant tout le monde au Centre Bell?
Ben, à mon avis, le retirer après 5 ou 6 buts, c'est pas plus gênant qu'en accorder 8. En toi puis moi. Là.
Ben, ça aurait été gênant sur le coup, probablement. Oui, Théodore humilié, on l'a retiré, sauf que l'histoire aurait terminé là.
Ben, c'est ça. Écoute, accorder 8 buts, là, comment tu veux te faire humilier plus que ça, là?
Non, mais je veux dire, après 5-6.
Ouais, mais 5-6, c'est une contre-performance. 8, c'est dégueulasse.
Ouais.
En fait, moi, ce que je retiens, c'est un match-là, là, écoute, c'est pas plutôt... Comment je pourrais dire? C'est pas la contre-performance de Théodore. C'est le Canadien qui a montré qu'il avait du caractère. Tu sais, Brisebois, il disait, on a laissé filer la partie, ils ont été opportunistes, blablabla, blablabla. Mais oui, mais c'est ça. Là, la nouvelle réalité dans la Ligue nationale, c'est qu'un match peut changer comme ça. Ça peut pencher d'un bord comme de l'autre avec les punitions, là, les avantages numériques. Les unités spéciales sont sollicitées. Moi, je me réjouis de voir que le Canadien peut justement renverser la vapeur. Écoute, 3-0 dans le temps. Tu t'en rappelles-tu, là, 4-5 ans,
ouais.
Tu joues contre les Blues de Boston. En deuxième période, tu perds 3-0. Là, la game est finie. Là, écoute, dans la nouvelle réalité de la Ligue nationale, Théodore Dimbu, c'est sûr que là, ça t'aide un peu. Tu peux espérer gagner la partie, même si à 5 minutes de la fin, tu perds par 2 buts. C'est pas compliqué. Si ton club pogne une punition, t'es en power play. Tout est possible, Simon.
Les plus méchants diront que Théodore a dû se mettre de la 60 dans le dos parce que la lumière rouge lui a donné un coup de soleil à force de clignoter.
Eh oui, j'ai entendu ça, ça m'a fait bien rigoler.
Bon, maintenant, Brisebois qui a été hué.
Il se faisait huer quand il était avec le Canadien.
Beaucoup d'experts critiquent le comportement des partisans montréalais. Est-ce qu'on aurait dû tourner la page ou les partisans avaient raison de conspuer contre Brisebois et Théodore?
Ben écoute, un club avec du caractère, des partisans à leur image, des partisans avec du caractère, c'est pas compliqué. Là. Écoute, moi, personnellement, je paye 117$ pour aller voir le Canadien. Là. 117$, ça me donne le droit de m'exprimer. Sérieusement, là.
Ben moi, j'ai, comme comparaison que je donnais cette semaine à certaines personnes qui m'en ont parlé, on n'a jamais conspué contre des gars comme Éric Desjardins.
Ben non, mais Desjardins, il se présentait, vierge.
Ben c'est ça. Brisebois, on était tanné de voir ses passes transversales qui se faisaient intercepter.
Ben ouais, combien de revirements qu'il a donné?
Ben c'est en plein ça. Puis il a continué à le faire avec le Colorado. Fait qu'à quelque part, il y a aussi son comportement immature qu'il avait en dehors de la glace. Fait que tu fais tout ça, là, puis je pense que le monde n'avait ras-le-bol. S'il y avait juste un comportement immature, mais qui performait sa glace, je pense que ça aurait pardonné beaucoup de choses. Puis c'est ça qui est arrivé aussi avec Théodore. C'est en dehors de la glace, son comportement immature.
Écoute, Simon, là, regarde.
Et ses performances. Regarde, il y avait des problèmes en dehors de la glace, Théodore.
C'est ça, je m'en allais dire.
Puis s'il y avait, il y avait le trophée Hart, on disait pas un mot du mot.
C'est normal.
Bon,
écoute,
à cette heure, regarde, moi, je fais juste dire, comme tu dis, que les partisans ont raison de vouloir s'exprimer.
Ouais. N'importe quel athlète qui livre la marchandise, peu importe qu'il soit sur une photo de famille avec les Hells Angels ou bien qu'on parle du beau-père qui est en prison pour attouchement, écoute bien, s'il livre la marchandise, il livre la marchandise. À Montréal, les partisans, ils connaissent le hockey, ils savent c'est quoi. Écoute, là, le gars, il est poche. Il mérite qu'est-ce qu'il y a.
Dans les commentaires de Guy Carbonneau après le match, qui a dit, bon, ben, on voulait la gagner parce que là, on va pouvoir tourner la page puis plus entendre parler que Théodore nous a battus. Ça exprime quand même à tel point que Carbonneau le voulait. Dans ses propos, il a pas mis le ton, mais en réalité, ça paraissait qu'il voulait plus l'entendre parler puis que ça avait une importance, ce match-là.
Carbonneau, c'est un vrai. Peu importe que ce soit contre l'Avalanche ou bien contre les Coyotes de Phoenix, chaque match pour lui, écoute, jamais tu vas le voir ou j'ai peine à penser qu'il pourrait dire à ses gars, ben, écoutez, à ce soir, on joue contre les Blue Jackets de Columbus, c'est pas nécessaire de vous présenter, écoute, bon, jouer une période ou deux, puis bon, on est sur la route, ça vaut pas la peine de jouer fort. Tu comprends-tu où je veux en venir?
Oh oui.
Que ce soit l'Avalanche, Théo d'un
but. Il va toujours vouloir avoir son maximum de chaque joueur.
Écoute, c'est normal. T'es des professionnels. Bon. C'est pour ça que Théo, puis peu importe le nom de l'athlète, s'il agit pas en professionnel, ben attends-toi pas à ce que les partisans soient gentils, puis te réservent des ovations.
Théodore a dit après le match que les huées, puis bon, la foule qui le scandait, c'était bon, pas mal sarcastique. Ça a été difficile de pouvoir performer dans des conditions semblables. Tandis que Brisebois, il a dit que ça y dérangeait pas du tout.
Brisebois, il est plus vieux, puis il en a vu d'autres. Là. Lui, il s'est fait huer pendant 3-4 ans avant de partir. Là.
Est-ce qu'il y en a un qui est vrai, puis l'autre, il a fait semblant que ça ne touchait pas?
Encore là, si t'es pas capable de faire abstraction qu'il y a 22 000 personnes dans l'aréna qui, dans le fond, qui s'attendent juste à ce que tu te plantes, Calvin, excusez-moi l'expression, là. Écoute, t'as peut-être pas ta place, là.
Bon, le prochain, dans 2 ans, Ribeiro, ça va-tu être la même affaire?
Ribeiro?
Dans 2 ans, quand les Stars vont venir à Montréal.
Dans 2 ans?
Ils sont venus l'année passée, ils ne viendront pas avant 2 ans.
Drôle de calendrier. Écoute, bonne question. Bonne question. Pour l'instant, Ribeiro à Dallas, il performe assez bien. Là.
Donc, à ce moment-là, on n'a pas du tout à s'en faire avec le comportement des partisans. Là.
C'est parce que je pense que bon, la relation que Théo avait avec les partisans puis la relation que Ribeiro avait, c'était un peu différent. On connaît tous l'importance du gardien de but dans une équipe de hockey. Écoute, si le gars il est pas là une game, puis on s'en fait scorer 5 ou 6, là, mais regarde, là, tu peux pas pointer du doigt l'annonceur maison ou celui-là qui a chanté les hymnes nationaux. Là, c'est le gardien qui est... Il est payé 3 ou 4 millions pour stopper le puck, puis il stoppe pas le puck. Fait que les gens réagissent, puis c'est tout à fait normal. Es-tu d'accord, Simon?
Oui, tout à fait d'accord. Pour revenir à la performance de Théodore, bon, tantôt, je t'ai dit, ça avait pas mieux de le sortir. Il a quand même accordé 3 ou 4 mauvais buts, là.
Ben, c'est sûr, écoute, on en parlait tantôt à Ordon, là, à 5 et 9, 5 et 10, quand t'es à genoux, là, la barre horizontale est quand même à un pied de ta tête, là. Je trouve ça ridicule, là. Le gars, il est pas capable de comprendre qu'en haut de ses deux épaules, il reste...
Ouais, mais il avait la même grandeur pareil quand il a remporté son heart.
Oui, je le sais, mais c'était différent à son attitude. Écoute, le gars, il fallait qu'il performe pour avoir un contrat béton, puis bon, il voulait se faire un nom. Le gars, il a pensé que, comment je pourrais dire, tout lui était dû, puis il était pas vraiment, écoute, je suis bon, j'ai gagné le trophée heart, je peux m'asseoir sur mes lauriers. C'est pas de même, ça marche dans le monde du sport, surtout pas à un niveau élevé comme ça, là.
Moi, je vais fermer le dossier, Théodore, en disant que une statistique intéressante, que avec une moyenne d'efficacité de 877, c'est la quatrième pire.
Très nul.
Derrière, entre autres, Rick DiPietro, monsieur contrat de 15 ans, 67 millions. Bon, on va passer au prochain sujet. Samedi dernier, j'étais au match des Alouettes contre les Eskimos.
Maudit chanceux.
Ben, toi, tu l'as vu toi aussi.
Ouais, en partie.
Bon, que penser de la balloune qui se dessouffle chez les Alouettes de Montréal?
Ben là, moi, je suis content qu'on ait Damon Duval, au moins.
C'est à peu près ça qui marque des points. Calvillo,
Calvillo, vierge. C'est quoi? Écoute, dans les 5-6 dernières années, on faisait de l'envie de tous les clubs. Honnêtement, là, écoute, il était dominant.
Il y avait lui puis Dickinson à BC.
Ouais, puis même à ça, ici, je l'aime bien, là, sérieusement. Mais là, cette année, je sais pas ce qui se passe. Puis samedi, dans la dernière partie, là, c'était désastreux.
L'année prochaine...
Hey, des passes, excuse-moi, là, mais regarde, à l'extérieur du terrain, régulièrement...
Ah, même
là,
pas proche.
Non, mais gars, en tout cas...
Ben Cahoon, il a fait des attrapés, puis il a refusé qu'il en fasse des spectaculaires continuellement parce que
ouais, mais là, c'est parce
les
que
passes n'étaient pas précises.
T'as dit Ben Cahoon, c'est pas l'inspecteur Gadget, le Gogo Gadget au bras, là, il peut pas...
Les Eskimos, qui, c'est la première fois en 35 ans qu'ils ne font pas les séries, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'entretenir avec Steve Charbonneau et Danny Machiosha. Je vais vous faire écouter ça tout de suite, justement, sur qu'est-ce que ça leur fait une première fois en 35 ans, là, la ville, comment qu'elle prend ça.
Ben, c'est sûr que c'est difficile, là. C'est une tradition à Edmonton de faire des séries, puis là, ben, cette année, la première fois en 35 ans, on était bien déçus. Écoute, la semaine passée, quand Toronto a gagné, nous autres, on s'est retrouvés éliminés. On avait la face longue un peu, mais on s'est dit, regarde, aussi bien, on a une belle gang dans le vestiaire, on a aussi bien d'en profiter et avoir du fun. Puis regarde, aujourd'hui, on a joué, on était relax, puis on a eu du fun, puis on a gagné.
De l'accepter, c'est clair, ça fait 35 ans qu'on participe, puis quand on participe, on a eu du succès. Les 4 dernières années, on a participé à 3 Coupes Grey, on a remporté 2, c'est une année particulière. Puis on va être meilleur en 2007.
On n'a pas à entendre les propos de Danny Machiosha. Écoute, à Edmonton, c'est la mecque du football canadien. C'est l'équivalent du Canadien de Montréal au hockey là-bas. Écoute, il l'a dit lui-même, Machiosha, 3 participations, 2 Coupes Grey. Dans les dernières années, c'est quand même quelque chose d'incroyable.
C'est vrai, pareil. Écoute, exclu des séries pour la première fois en 35 ans, tu connais-tu une équipe de sport qui peut se vanter d'avoir été en série 35 ans d'affilée?
Non, pas du tout.
Alors, on peut comprendre là, dans l'esprit des partisans puis des joueurs, comment ils doivent se sentir.
Ben, malgré tout, Danny Machiosha garde son poste cette année. On dit que c'était déjà prévu qu'ils étaient pour en arracher cette année parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs suite à la victoire de la Coupe Grey. Il y en a qui sont partis dans la NFL. Il y en a qui sont partis sous d'autres cieux. N'empêche que la prochaine question que j'ai posée à Danny Machiosha et Steve Charbonneau, c'est, bon, ben écoute, selon certains experts, entre autres Pierre Vercheval pour le nommer celui-là, a dit que les Eskimos d'Edmonton étaient une équipe qui était en expérimentation des essais pour le prochain camp d'entraînement. Puis c'est quand même impressionnant qu'est-ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui. Puis on va écouter ça tout de suite.
Avant le match de ce soir, Pierre Vercheval avait dit que vous étiez une équipe qui était en préparation d'un camp d'entraînement, que vous étiez en train de faire des expérimentations, mais avec une victoire contre une équipe qui se bat justement pour une place en série, c'est quand même assez remarquable.
Ouais, il y a des gars comme McLennan, porteur de ballon. On a toujours su qu'il avait du talent. Aujourd'hui, il arrive et il court 180 verges au sol. Tu te dis, il était où cette année? T'sais? Mais en même temps, on a un autre à la maison, Troy Davis, qui est aussi bon. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'outils dans cette équipe-là. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils fassent une décision pour l'année prochaine. Mais c'est pas tout le monde qui est en audition pour l'année prochaine. Ils ont laissé quelques gars à la maison. Mais en général, peu importe ce qui tu trouves sur l'équipe, puis ce que tu mets sur l'équipe, si tu joues pas d'émotion puis tu n'exécutes pas, tu n'en gagneras pas de match. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on a joué avec beaucoup d'émotion, puis on a exécuté, puis on a gagné.
Oui, je pense que le fait que les joueurs... ça fait partie de l'évaluation, parce que s'ils jouent bien, ça veut dire que tu as une bonne chance à remporter la victoire. Puis alors, ils ont bien impressionné, puis on était capable de faire quelques jeux de plus. Puis c'était la raison principale qu'on était capable de remporter cette victoire-là.
Merci beaucoup.
Steve Charbonneau parle justement de McLendon, le porteur de ballon, 190 verges. Il a été quand même assez spectaculaire, Maxime.
Ben oui, Simon, écoute, je suis pas un pro en football, mais ça m'arrive à l'occasion de regarder ça. Puis bon, partisan des Alouettes, je suis capable quand même de m'intéresser aux autres équipes. Les Eskimos ont tout le temps été assez puissants. Donc, bon, c'est ça. McLendon, faire une histoire courte, moi, je le connaissais pas. 25 courses, 198 verges. On me dit que c'est un nouveau, ça.
Oui.
Écoute, assez puissant,
le
jeune.
En plus, ils ont déjà le vétéran Troy Davis que j'ai eu l'opportunité de rencontrer à Hamilton, qui est quand même fait partie de l'élite là, des porteurs de ballon, sont quand même bien équipés à ce chapitre-là. Ça augure justement bien pour les Eskimos dans le futur.
Charbonneau, lui, il parlait là, de McLendon. Moi, je peux parler de Steven Jazz. Écoute, c'est pas leur corps numéro un, je me trompe pas. Moi, il m'a impressionné. Sérieusement, là, écoute, des passes précises, il anticipait le jeu. C'était complètement l'inverse de Calvillo. Puis Calvillo, on s'entend, c'est pas un pied de céleri, là, en général.
Bon. Malgré le fait que Danny Machocha est très satisfait, là, présentement, puis qu'il l'a avoué, bon, sont en période d'évaluation.
Satisfait de la partie qu'ils ont joué face aux Alouettes.
Ouais, pas de la saison.
Arrêtez,
ouais.
Là, t'es exclu des séries.
Non, mais c'est clair. Il l'a dit lui-même, t'es en période d'évaluation. N'empêche que, est-ce que les Eskimos ont impressionné, ou c'est les Alouettes qui sont carrément plus là, là?
Simon, je pense que c'est les deux. Moi, les Alouettes m'ont déçu. Les Eskimos m'ont impressionné. C'est l'an passé ou là 2 ans, justement, on a joué contre les Eskimos en finale à Coupe Grey.
Oui.
Puis les Eskimos ont gagné, mais c'était plutôt...
Parce que là, ben, ça finit quand même de juste 30 à 20, c'est 10 points. Puis dans une performance lamentable de Calvillo, je sais pas, juste... un petit peu meilleur.
Est-tu blessé, lui, quoi?
J'en ai aucune idée.
C'est quoi qui se passe?
Non, c'est plus le même gars du tout là, qu'en début de saison.
Là, les Alouettes avaient dans le line-up un gars qui arrive de la NFL. Là.
Jesse Palmer.
C'est qui, lui?
Ben, c'est parce que Jesse Palmer, il a été repêché par les Giants de New York, qui a fait un passage aussi avec les 49ers, mais il a jamais joué en tant que tel dans la NFL. Il faisait juste porter l'uniforme. Il était deuxième, troisième quart arrière. Et il est arrivé à Montréal, mais c'était clair que vu l'apprentissage du livre de jeu, il pouvait pas jouer cette année. Mais là, je m'attends à ce que l'année prochaine, on ouvre la porte à Jesse Palmer et qu'on lui donne une opposition à Calvillo. Là.
Parce que là, c'est ça, lui, il est dans sa bulle là, ici, mais s'il produit pas, écoute, dans le sport professionnel, là, t'es tout le temps sur un siège éjectable. Si t'es pas hot, mais ciao, bye.
On a pu entendre Steve Charbonneau qui parlait que ça augurait bien pour l'avenir les Eskimos d'Edmonton, qui étaient contents pour ça. Mais y a-t-il un avenir avec Steve Charbonneau, avec les Eskimos d'Edmonton? Puis je vous fais écouter ça tout de suite.
Est-ce que tu prends ta retraite cette année? Est-ce que tu reviens avec les Eskimos?
Non. Je reviens pas avec les Eskimos, je suis agent en liste. Fait que je vais essayer de revenir jouer dans l'Est à quelque part.
T'as l'intention de revenir dans l'Est?
Oui.
T'as-tu des clubs déjà en vue?
Ben, il y a 3 clubs dans l'Est parce que je considère pas Winnipeg dans l'Est. Winnipeg, c'est tant qu'à moi, c'est à quelque part entre l'Ouest et l'Est, mais il y a trois clubs dans l'Est, puis on va voir dans le mois de février quand je vais tomber à Jean Libre. Si le téléphone sonne, ben, on va répondre et on va regarder.
Un retour à Montréal?
On va voir s'il y a de la place pour moi ici, puis s'ils sont intéressés à mes services, c'est sûr que je vais moi y penser, c'est certain.
C'est quand même intéressant de voir Steve Charbonneau qui ne sait qu'il ne veut absolument pas revenir à Edmonton, bon, à cause de sa femme qui est loin de sa famille et tout et tout. Maintenant, tu vois que c'est un joueur d'équipe, là. Il donne son 100% présentement avec l'équipe, il est content de ce qui se passe, mais...
Ben, écoute, Simon, tantôt, il parlait dans son entrevue d'exécution. On parle, bon, d'exécuter les jeux correctement, d'un pratique, puis bon, quand t'arrives dans une situation de match, il faut que tu mettes ça en pratique, justement. Puis il a parlé, là, d'émotion. Ça, c'est un mot assez important, là. Écoute, si tu joues pas avec émotion, t'as pas d'intensité. Si t'as pas d'intensité, ben, gars, tu t'en vas nulle part, là. Right?
Ouais. Y a-t-il de la place pour Charbonneau à Montréal?
Un joueur francophone, un joueur d'équipe francophone.
34 ans,
oui. Écoute, c'est pas une jeunesse, là, mais bon. S'il est encore capable.
OK, mais est-ce que Steve Charbonneau peut remplacer un gars comme True Luck ou Antoine Stewart? Antoine Stewart, qui quand même est un pilier défensif à Montréal.
Ben écoute, comme je te disais tantôt, joueur francophone, joueur d'équipe, joueur avec de l'expérience. S'il n'a pas sa place dans l'alignement partant, à tout le moins, ça peut ajouter de la profondeur.
Accepterait-il un poste comme de réserviste?
Ben, officiellement, ben, en tout cas, à mon avis. Moi, je connais pas personnellement Steve Charbonneau, mais quand il est parti de Montréal, on voyait que ça y avait comme fait un... Il avait avalé de travers.
Oh, ouais. Ben, maintenant, je pense que c'est justement à cause de Don Matthews qui l'a jeté en dehors du nid. Maintenant, Don Matthews parti, ça ouvre la porte.
Je trouve ça beau, ton allusion, Alouette, nid... Comme tu dis, Simon, on donne Matthews parti. Peut-être que, bon, Charbonneau s'en serait plus à l'aise dans le système de jeu que les Alouettes. Mais là, bonne question, là. C'est qui le coach l'an prochain? Là, Jim Pop, c'est le DG, là. Il peut pas se promener en bas sur le long des lignes, là.
On spécule beaucoup. Il y en a qui disent que ça peut être Barker. Il y en a d'autres qui disent que ça peut être Chapdelaine.
Ah, Chapdelaine, c'est pas mauvais.
C'est ou Constantin, Glenn Constantin, à l'Université de Montréal, Laval, je veux dire. Mais d'après moi, celui qui a peut-être une longueur d'avance dans les francophones, c'est Chapdelaine, justement à cause de son expérience dans les Canadiennes.
Ouais, c'est pas fou. En même temps, Constantin, là, je pense pas que l'Université de Laval voudrait le laisser partir.
Puis d'un autre côté, Jim Pop, je pense qu'il regardera pas le fait francophone, mais qu'il va aller chercher le meilleur homme disponible. Pop a toujours agi en fonction de ça.
Ben, c'est un professionnel. Là.
C'est en plein ça.
Je salue son comportement.
Maxime, en même temps, je veux faire une annonce.
Ah oui?
Sur cette tribune. On va avoir un nouveau collaborateur au sein des gérants d'estrade. On a un collaborateur qui a porté l'uniforme des Wolverines du Michigan au football, qui a porté l'uniforme des Seahawks de Seattle, des Panthers de la Caroline, des Texans de Houston. Il porte maintenant l'uniforme des Eskimos d'Edmonton et qui va intervenir une fois de temps en temps sur le football, autant la Ligue canadienne que la NFL. Si le Journal de Montréal a son Pierre Vercheval, nous, on a notre Dieter Dubuc et c'est avec fierté qu'on peut dire qu'on va accueillir Dieter Dubuc une fois de temps en temps par l'entremise du téléphone.
Ben écoute, Simon, Dieter Dubuc, il apporte encore plus de poids à notre émission.
On a déjà des petits poids lourds, fait que ça va en rajouter un petit peu plus. Puis en même temps, un petit côté plus professionnalisme et technique à l'émission, en espérant que vous soyez toujours parmi nous durant ces émissions.
Mais pour ce qui est de football, on n'est quand même pas à pied, Simon. Toi, qui a déjà porté les couleurs
quelques équipes dans la Ligue canadienne, mais ça c'est une autre histoire, ça fait partie de mon passé.
Oh, il est rouge.
On a aussi Keith Salomon qui a quand même une grande connaissance en football, on a pu le voir dans les dernières émissions, et puis Dieter Dubuc, on applaudit son arrivée avec nous. Bon, maintenant on va passer au segment Shot Clock.
Simon Smirka and his guests are ready. Are you? Because it's time to beat the clock.
Allons-y, Simon, beat the clock.
Mike Ribeiro, 7 points en 7 matchs. Le regrette-t-on?
Bonne question, Simon. Écoute, l'éclosion de Ribeiro était à prévoir. Avec son gabarit de retraité quilleur, il était évident que si le Canadien lui avait fait une place dans l'alignement, mais c'était que Ribeiro possédait un talent indéniable. Le problème dans son cas, mis à part son imposant gabarit, découlait du fait que son talent était inversement proportionnel aux efforts déployés. Bref, il est évident qu'en comparant ses stats à ceux de Ninima, on a tendance à penser que le CH en a fait passer une vite. Pour l'instant, Ribeiro est feu tout flamme, mais quand on parle de feu dans son cas, on peut penser à un feu de paille. À mon avis, c'est qu'il a sorti de Montréal, c'est lorsqu'il a déclaré qu'il prendrait Guillaume Latendresse sous son aile. On connaît l'éthique et la motivation du petit Mike. On connaît également l'espoir que Latendresse représente. Je crois donc que Bob a décidé de nettoyer le panier de pommes avant que le moisi ne se répande trop. Bonne chance, Mike, et merci, Bob.
C'est un classique des joueurs qui ne produisent pas à Montréal et qui, soudainement, c'est l'explosion. Mais dans le cas des Ribeiro, il faut juste qu'il se justifie un peu avec sa nouvelle équipe. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Et c'est ce qui va se passer avec Ribeiro, qui n'a jamais pu se plier à une éthique de travail professionnelle. Bobby Clarke démissionne et Ken Hitchcock est congédié. Est-ce une surprise et qui sera le prochain?
Que Hitchcock s'en aille, Simon, ça peut représenter une surprise, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que Bobby Clarke démissionne. Écoute, Bobby Clarke, Monsieur Flyers, ce qui a vraiment nuit à Clarke, c'est pas un secret. Certains diront que Desjardins leur manque. Il est évident que leur brigade défensive fait un peu dur, mais les vraies raisons des insuccès des Flyers se situent entre le demi-cercle et le filet. Lorsque Clarke jouait et que les Flyers faisaient régner la terreur, il pouvait miser sur Bernard Parent, un des meilleurs gardiens de son époque. On est en droit de se demander si Clarke a mémoire courte. Évidemment, avec Forsberg et Gagné en attaque, on peut s'attendre à des jeux incroyables. Mais ce qui est également incroyable, c'est que leur gardien numéro 1 s'appelle Robert Esch. Le grand ménage n'est donc pas une surprise à mon avis. Bon, Hitchcock est donc le premier entraîneur à lui être fait cette année. Et le prochain, selon moi, c'est John Tortorella. Avec Saint-Louis, le Cavalier et Richards, les partisans du Lightning sont en droit de s'attendre à un peu plus du club. En terminant avec mon sarcasme habituel, tout le monde le sait que quand une équipe joue mal, c'est à cause du coach.
À première vue, le job de Bobby Clarke semblait à vie, même s'il accumulait les gaffes. Que ce soit la transaction de Lindros qui a envoyé Forsberg à Québec, de choisir des défenseurs lourdeaux ou des joueurs finis comme Darian Hatcher, Adam Oates, Jeremy Roenick, Pat Falloon, Dan McGillis, Luke Richardson. Le fait qu'il s'est débarrassé de Brindamo Fetodenko est quand même pathétique. Le seul bon coup aura été la transaction qui a amené John Leclerc. Mais comment expliquer qu'il se souvenait même plus du nom de Claude Giroux sur l'estrade au dernier repêchage? Et que dire de son non vouloir d'aller chercher un gardien numéro 1? Il était temps dans le cas de Clarke. Pour Hitchcock, il aura manqué de temps car il était en pleine guerre avec son gardien Robert Esch. Guerre où il aurait eu raison, car Hitchcock ne fait rien sans raison, mais puisqu'il a perdu son allié en Clarke, il a passé dans la moulinette. Il se trouvera une job d'ici la fin de l'année, et moi aussi je pense que le prochain sera Tortorella.
Simon, fait ou fiction dans le cas de Maxime Afino-Genov?
Dans le nouveau style de la Ligue nationale, les petits joueurs ultra rapides peuvent enfin s'exprimer. Afino-Genov avait la réputation de toujours frapper les poteaux, mais tout est rentré dans l'ordre. Il me fait penser à un certain Oleg Petrov, mais bon, c'est une autre époque et Afino-Genov fait partie de l'élite maintenant.
Depuis la mi-saison l'an passé, les Sabres sont affamés. Avec un entraîneur en poste depuis 7 ans, donc un système de jeu bien établi, et plusieurs jeunes joueurs de talent repêchés, je ne suis pas surpris par les succès des Sabres. Avec sa vitesse et son travail acharné, tout comme Daniel Brière, Maxime Afino-Genov est bien en selle à Buffalo. Mais paraît évident qu'Afino-Genov représente bien l'image des Sabres. Jeune et fougueux. Vous saurez me le dire, si ce dernier reste en santé, il trônera au sommet parmi les gros canons du circuit.
Série mondiale, Tigers de Détroit ou Cards de Saint-Louis?
Simon, lorsqu'on parle de série mondiale, mes yeux s'illuminent. En effet, série mondiale rime avec la fin de la saison de baseball. Franchement, 162 parties avant de déterminer qui aura la chance d'en jouer une vingtaine de plus. Non, mais je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, on s'en apprend pour tous les goûts. Malgré mon enthousiasme débordant, j'ai quand même un parti pris. En effet, mon cœur favorise les Cards. Pour la simple et unique raison que lorsque les Expos étaient encore de ce monde, j'ai pu connaître un peu les Cards. Les Tigers, eux, jouent dans l'américaine, donc on les connaissait un peu moins. Avec Pujols, Jim Hanman, Carpenter, les Cards sont en voiture. Mon vote pour Saint-Louis.
Je ne suis pas d'accord avec toi, il fallait bien que ça arrive une fois dans une émission. Les Tigers de Détroit sur toute la ligne. David Dombrowski a amené le même homme avec lui quand il a gagné la Série mondiale avec Jim Leyland. L'embauche à rabais de Ivan Rodriguez, le flair qu'il a pour les bons jeunes joueurs et l'embauche de vétérans comme Kenny Rogers aurait été sa recette pour cette saison. Dombrowski, ne l'avions-nous pas à Montréal? Ah, ça aussi, c'est une autre histoire. C'est ce qui met un terme à cette extraordinaire émission. Je voudrais remercier ceux qui sont pratiquement 800 à nous écouter toutes les semaines. On voudrait vous remercier du plus profond de notre cœur.
C'est des bonnes nouvelles, ça, Simon. Ah, 800 oui. auditeurs par semaine, ça prouve à quelque part qu'on fait du bon travail.
Oh, on essaye le plus possible. Alors, c'est ce qui nous permet de vouloir continuer à chaque semaine.
En espérant qu'on vous a diverti.
Et puis, Maxime, je te remercie encore une fois pour cette semaine.
Ça m'a fait le plus grand plaisir, Simon.
Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
See you next week for another show with Simon Smirka and his guests.